RVA, l'invité de la rédaction.
Alors, on reçoit au micro de RVA ce mois-ci un photographe pas comme les autres. Éric Tari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chasseur d'orages, c'est comme ça qu'on peut vous qualifier. Vous traquez ces phénomènes météorologiques dits spectaculaires pendant des heures et pour obtenir les meilleurs clichés. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Expliquez-nous comment vous procédez pour obtenir la bonne photo d'un orage ou d'un éclair. Quelles sont les conditions, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, qu'il faut absolument réunir. Il faut être très organisé, patient. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus là-dessus?
Oui, alors c'est un ensemble de choses. Et pour résumer, il faut être au bon endroit au bon moment. Mais pour augmenter ses chances d'avoir la bonne photo, d'être au bon endroit, il faut déjà, il y a tout un travail en amont de prévision. Alors ça va de la semaine jusqu'au jour J. À partir de la semaine, on peut avoir une tendance orageuse. On ne sait pas vraiment la force qu'aura l'orage et la localisation. Mais de jour en jour, en affinant, on peut affiner les régions jusqu'au département. Et après, ça reste un potentiel. Hein. Et du coup, après avoir fait tout ça, on se fixe une zone de début de track, qu'on appelle une target, pour commencer à voir ce qui peut être intéressant et après peut-être suivre l'orage en question et essayer d'avoir des points de vue sur le tas. C'est tout un ensemble de choses assez compliquées parce qu'il faut être sur le qui-vive et prendre les bonnes décisions au bon moment.
Parce que là, en termes de journée type, si là, par exemple, ce soir, il y a un orage, c'est plus la nuit qui est le plus intéressant, j'imagine.
Alors, ça dépend. On peut avoir des choses intéressantes la journée. Au niveau des structures, c'est plus visible, par exemple. C'est plus facile de suivre l'orage de jour parce que on n'a pas ce problème de point de vue qu'on est un peu à l'aveugle la nuit. Mais la nuit, moi, ça m'intéresse plus la nuit pour la foudre et la journée pour la structure, par exemple.
Et donc, ça peut être des heures incalculables parfois, hein, puisque sur le terrain, vous me disiez, ça peut être des nuits blanches,
oui.
Même parfois, du coup.
Oui, oui. Par exemple, le 2 juin, là, c'était au début d'une période de quelques jours d'orage. J'ai fait une nuit blanche entre Cantal et Haute-Loire. Vraiment, je suis rentré à 7h30 du matin en partant. J'étais parti vers les 16h.
Parce qu'en fait, vous suivez, vous tracez, entre guillemets, l'orage. Donc, c'est pour ça que ça peut mettre autant
oui.
de temps.
Oui, parce qu'un orage n'est pas forcément intéressant tout au début. Il peut être intéressant dans certaines phases de son développement, au niveau de la foudre, tant qu'au niveau de la structure. Donc, il faut essayer de suivre en fonction de la facilité du terrain aussi. Parce qu'on peut être très vite dans des terrains boisés. Et là, je ne m'y aventure pas vraiment parce que c'est un peu du sens unique. On ne sait pas où on va atterrir et c'est dangereux aussi s'il y a des rafales descendantes, qu'on appelle ça. C'est des rafales très puissantes qui cassent des arbres, qui font beaucoup de dégâts. Souvent, c'est confondu avec des tornades. Et donc, toutes ces zones-là, il faut les éviter. C'est infotographiable sinon.
Parce que vous êtes proche quand même de l'impact. Si par exemple, il y a un impact de foudre, vous êtes proche quand même ou vous gardez un périmètre de sécurité toujours?
C'est très variable, ça dépend de l'orage, de l'intensité qu'il a, et des fois il nous surprend aussi. Mais dans certains orages, je peux être à 2 km de la foudre, et d'un seul coup, il y en a un qui tombe derrière même. Donc c'est très variable. Mais j'essaye d'avoir un... Il faut être raisonnable à un moment donné, en dessous du kilomètre, j'essaye de shooter depuis la voiture. J'ai un trépied sur le siège passager en plus du trépied que j'ai à l'extérieur de la voiture. Et quand ça devient dangereux, déjà pour les premières gouttes qui commencent à tomber, c'est pas terrible pour les photos, il faut toujours essuyer l'objectif. Et donc, depuis le siège passager, je suis à l'abri un petit peu plus. Et aussi au niveau de la pluie, plus à l'abri. Donc, voilà.
Parce qu'il faut le dire, hein, c'est pas une pratique anodine. Pas n'importe qui peut le faire dans des conditions pareilles. Est-ce que vous-même, vous avez eu des frayeurs? Est-ce que ça peut, comme vous le disiez, être très risqué?
Oui, j'ai eu quelques frayeurs, mais alors pas extrêmes, mais par exemple, on connaît tous le proverbe les cheveux droits sur la tête. Moi, ça m'est arrivé en 2014 et en 2016. Et en général, c'est des signes qui font dire qu'il faut plutôt rentrer dans la voiture que rester à l'extérieur. Alors en 2014, j'ai eu le réflexe de... J'étais proche de la voiture, donc je suis vite rentré. et quelques secondes après, un coup de foudre est tombé dans les centaines de mètres. Et l'autre coup en 2016, c'est un orage qui est arrivé sur le Puy de Dôme, plutôt loin, et ça m'a impressionné que j'ai autant d'électricité statique à ce stade. Donc j'ai pas traîné sur le spot, même s'il était encore à quelques kilomètres, il fallait un peu remballer. Voilà.
Et comme on le disait, donc ce sont des phénomènes imprévisibles. Faut arriver au bon endroit au bon moment. C'est aussi un peu de chance pour avoir une très bonne photo au final.
Oui, il y a une part de chance dans la photo d'orage. Mais en multipliant les tentatives, on multiplie ses chances d'y arriver.
Et finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile à capturer derrière l'objectif ? C'est les éclairs, la foudre ou c'est tout autre chose ?
Oui, la foudre, c'est le plus compliqué, mais on a des appareils qui aident pas mal. Ça s'appelle des cellules de déclenchement. Il y en a qui captent les micro-changements de luminosité qui vont déclencher l'appareil photo en rafale, sur 3-4 rafales. Et des fois, on arrive à avoir l'éclair. Des fois, on ne l'a pas non plus. Ça varie en rapidité aussi, un éclair. Et il y a un autre système qui se base sur les fréquences radio qui déclenchent aussi.
Et les orages, hein, en général, ça peut en effrayer certains. Mais vous, en tout cas, ça vous a toujours fasciné.
Oui.
Depuis tout petit, finalement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce genre de phénomène ?
Alors, c'est un paradoxe entre la peur des dégâts que ça peut provoquer et la fascination par la force de la nature, en fait. C'est vraiment un mix des deux. Il y a toujours cette adrénaline sur le terrain qui fait qu'on a envie de se rapprocher plus, forcément, pour observer mieux les éléments. Mais il y a ce côté où il faut faire attention, il faut rester un peu rationnel. Pas que ça déborde.
Et on le disait, c'est dur de dénombrer hein, le nombre de chasseurs d'orages dans la région. Vous-même, vous essayez de sillonner d'autres régions de France quand c'est possible. Et vous nous parliez aussi des États-Unis, qui peut-être est un rêve aussi pour vous d'y accéder. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ces autres zones géographiques qui pourraient être des terrains de jeu, entre guillemets, pour vous?
Bah, la Tornado Alley, qu'on appelle en Amérique du Nord. C'est très prisé par les chasseurs d'orage. Là-bas, c'est vraiment un métier, chasseur d'orage. Donc, c'est une autre réputation. Et c'est ce qui a un peu... le film Twister reflète pas mal ce côté-là. Donc, ça a bercé mon enfance, ce film, hein, forcément. Et ça, c'est des très bonnes zones en début d'année pour avoir de la tornade et des orages très violents.
Et on a vu ces dernières semaines hein, de fortes intempéries dans la région, des phénomènes violents, de nombreux orages et des phénomènes violents, comme on l'a dit, qui pourraient s'intensifier à l'avenir à cause du dérèglement climatique et qui, malgré ça, est propice pour votre travail. Mais vous le ressentez déjà sur le terrain, cette intensité beaucoup plus forte?
Alors, c'est compliqué à dire. Je pense qu'on n'a pas assez de recul pour vraiment déterminer le changement sur l'orage. Pas sur les sécheresses, tout ça, c'est indéniable. Mais sur les orages, je ne peux pas dire. Je pense qu'il faudra une décennie encore pour assez de recul et dire ce qui a changé sur le terrain. Parce que là, les épisodes qu'on a eus, ils étaient assez exceptionnels, mais il y a déjà eu des périodes exceptionnelles de cette manière. Donc, c'est difficile à dire hein, sur ce côté-là.
Parce que vous le disiez, en quoi ils sont aussi violents finalement? Rappelez-nous, pardon, comment se forment ces orages qui sont aussi violents qu'on a constaté ces
Alors,
derniers jours?
Alors la base de la formation d'un orage, c'est des conflits de masse d'air qui rentrent en conflit, forcément. et donc, ça, plus la température est basse en altitude et plus la température est haute en basse couche. C'est-à-dire qu'après des canicules, on a une accumulation de chaleur sur les plaines et tout ça. Et ben, ça va forcément donner plus d'ingrédients à l'orage pour se développer et être plus sévère. Et après, l'orage peut passer dans un stade supérieur qu'on appelle l'orage supercellulaire. C'est un orage qui rentre en rotation et c'est un orage justement qu'on retrouve pas mal dans les plaines américaines qui produise la tornade sur l'ultime aboutissement de cet orage. Et donc là, c'est ce qu'on a eu pas mal dans le coin, même partout en France, Bordeaux, Alsace, le sud-ouest. Et donc là, ces orages-là, ils provoquent souvent des grêlons de très gros diamètre, avec des rafales de vent fortes.
Et vous disiez même pour l'Auvergne, à l'échelle de l'Auvergne, l'Allier, finalement, c'est une zone spécifique pour ça, entre guillemets, pour ces orages violents.
Alors, on a remarqué qu'il y avait un couloir en Auvergne, oui, surtout sur l'Allier qui déborde souvent en Saône-et-Loire et qui continue parfois en Bourgogne. Et ces orages sont un peu cycliques, on va dire. Et on a eu une grosse période entre 2010 et 2015 avec des supercellules, justement, qui passent ou au sud de Vichy ou au nord, un peu plus au nord, entre Vichy et Moulins. Et c'est des orages qui reviennent souvent, ouais, c'est des trajectoires. Des couloirs d'orage, qu'on appelle ça.
Et c'est ce qui expliquerait majoritairement pourquoi l'Allier a été beaucoup plus touché que le Puy-de-Dôme,
oui,
finalement.
Oui, sûrement. Ouais. On a eu des gros orages le 4 juin et encore le 21 juin, là, encore plus destructeurs que le 4 juin, finalement, avec des diamètres des grêlons pratiquement similaires. Mais celui du 21 juin a été beaucoup plus destructeur parce que. Il y a eu par les témoignages, j'ai vu le vent. Et le vent a accentué les dégâts des grêlons. En fait.
Et j'aimerais finir cette interview aussi sur vos projets. Vous disiez, vous avez quelques projets en tête par rapport à cette profession, oui, de chasseur d'orage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot?
Oui, alors mon deuxième hobby qui se mêle à la photo et l'orage, c'est le timelapse. Donc là, j'ai... Je suis en train de faire du timelapse depuis les années 2016 pour un projet particulier. J'essaye de regrouper vraiment le meilleur des orages que je croise. Je ferai une compile de tout ça. Je ne sais pas, je ne peux pas donner de date, mais c'est le projet. Ça durera au moins 10 minutes, je pense, parce que je commence à avoir beaucoup de matière là. Mais il manque des choses que j'ai envie d'avoir dedans. Donc c'est aussi... contraignant de vouloir certaines choses parce que ça prend du temps et on n'a pas forcément l'orage qu'on a envie d'avoir.
Parce qu'à l'image, vous avez vraiment des choses précises que vous aimeriez avoir,
oui.
Esthétiquement. Oui,
oui, oui, oui. Par exemple, alors j'en ai déjà un petit peu, hein, mais de l'orage sur un fond étoilé, des structures vraiment énormes, des supercellules très très menaçantes. Enfin, il y a des structures qu'on ne peut pas forcément imaginer qu'on n'en est pas dans le truc, mais Ça peut faire des structures magnifiques.
Et en tout cas, on peut admirer toutes ces photos en attendant le timelapse sur vos réseaux sociaux et aussi votre site, hein, si je ne me trompe pas, e-motionpictures,
oui,
au pluriel.com. Merci beaucoup, Eric Tari, encore pour cette
Merci
interview.
À vous.